RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
À 17h05 sur RMC, tiens, je vous rappelle ces résultats de la deuxième journée de Ligue 1. Victoire du PSG hier à Guingamp 3-0. L'AS Monaco qui s'est imposé 4 buts à 1 à Dijon, on va en parler. Strasbourg qui a battu Lille 3-0, ça aussi on va en parler. Samedi soir, Angers est allé s'imposer à Amiens 2-0. Bordeaux a battu Metz à domicile 2-0 également. Victoire 1-0 de Saint-Etienne à Caen. Victoire 1-0 du TFC face à Montpellier. Victoire 1-0 de l'OM à Nantes. Et puis des succès 2 buts 1 de Troyes et Lyon face à Nice et Rennes. Ça, c'était vendredi soir, les deux matchs d'ouverture. Tiens, coach, petite info là qui est tombée, oui. La suspension de Cristiano Ronaldo. T'as vu, il a mis une petite poussette à l'arbitre hier. Pas content, ouais, d'avoir été expulsé après avoir enlevé son maillot, avoir fait une faute un petit peu bête qui d'ailleurs méritait peut-être pas justement de lui mettre un carton rouge. C'était la Super Coupe d'Espagne, le match aller, victoire 3 buts 1 du Real au Barça, au Camp Nou face au Barça. Et donc, 5 matchs de suspension pour Cristiano Ronaldo.
Ouais, j'attendais un petit peu avec impatience de voir la gravité de cette sanction. J'ai vu l'action. Sincèrement, je pense que on peut se mettre à la place de Ronaldo et ne pas être content du choix de l'arbitre, qui est de ne pas siffler pénalty. En plus, lui mettre un carton jaune pour simulation alors qu'il, ouais, en a déjà un, il sait très bien qu'il va l'expulser. Alors évidemment, il ne doit pas avoir le réflexe de le pousser, oui, de le pousseter.
Il a une poussette.
Allez, un petit pousson.
Il l'a poussé.
Oui, voilà, moi, ok, il a poussé, bon.
Moi, je me...
Il n'aurait pas dû, mais sincèrement, je pense qu'on peut mettre un carton jaune à l'arbitre sur ce truc, ouais, ce truc-là. À la limite, il ne veut pas siffler pénalty, parce que c'est pas évident de siffler un penalty. Ok, même si pour moi il y a une faute, même si le penalty aurait été peut-être sévère, mais au moins allez, ne mets pas le carton jaune que tu sais très bien que tu vas l'expulser.
Et d'autant,
une fois de plus, je constate cette lacune dans notre football,
ouais,
de ne pas avoir un carton intermédiaire, ouais, entre le jaune et le rouge.
Est-ce que la lacune aussi, c'est, enfin moi j'ai jamais compris, je dois t'avouer, pourquoi on mettait un carton jaune à un joueur qui enlève son maillot. Ça va, c'est pas non plus un scandale d'état d'enlever son maillot sur un terrain quand t'as marqué un but.
Oui, mais ça à la limite, c'est le règlement. Alors le règlement, qu'il soit stupide ou pas, on doit en être au courant. Si on faisait toute une liste des règlements stupides, hein, dans notre société, elle serait longue. Mais bon, là il faut s'adapter. On n'a pas le droit. Bon, allez, déjà, il fait cette petite erreur, mais par contre après sur ce penalty, prendre un deuxième carton jaune, et l'arbitre il sait qu'il lui a déjà mis un premier carton jaune, il sait très bien que ça va être sévère cette expulsion, alors que bon, le penalty est peut-être. Mais bon, allez, 5 matchs, il paraît que ça aurait pu être pire. Ouais, pourquoi pas.
Et il paraît que c'était 13 au maximum.
6 mois, oui.
Allez, on referme ce chapitre Ronaldo qui donc ne pourra pas jouer la Super Coupe retour donc pour le Real Madrid. Victoire hier 3-1 des Meringuets au Camp Nou face à Barcelone.
Par contre, s'il y a quand même une victoire, ouais, 3-1...
Qui fait mal, qui, ouais, fait très très mal. Et puis au-delà du score, il y a le scénario. On accueille Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Arnaud. Salut coach.
Salut Momo.
Parce qu'évidemment, on va parler de Monaco et on va parler du transfert qui agite toute la planète Mercato. Tiens, on vous pose cette question sur le Twitter de RMC Sport. Monaco a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé pour réussir? À 56%, vous nous dites non. Ça veut dire que selon vous, eh bien, simplement, Kylian Mbappé n'est pas nécessaire. Monaco peut réussir sans lui. Et Monaco, d'ailleurs, a réussi sans lui. Victoire 4 buts 1 hier à Dijon. Triplé de Falcao. But de Jemerson. Des buts magnifiques. Avant de revenir sur cette rencontre, juste les dernières infos, parce que on a l'impression que Mbappé, quand même, dans tous les choix qui ont été faits hier par l'entraîneur Leonardo Jardim et par la direction du club, de le laisser sur le banc, de ne pas le faire entrer sur la pelouse, on a l'impression qu'il est de plus en plus vers la sortie.
En tout cas, ça pouvait être pris de deux manières différentes, cette décision de mettre Mbappé sur le banc. Est-ce que c'était une précaution pour éviter une éventuelle blessure, éviter un problème, puisque c'est un joueur aujourd'hui qui vaut 180 millions d'euros? On imagine bien que si Mbappé se blesse en jouant contre une
équipe... Il s'est fait mal au genou la semaine dernière.
Ouais,
d'ailleurs.
Il s'est déjà fait mal au genou lors de la réception à Louis II de Toulouse, pour aller jouer ensuite à Dijon dans un match qui semblait au départ pouvait être un piège pour l'AS Monaco, même s'ils sont très très bien sortis. Une blessure d'Mbappé à quelques jours de la fin du mercato, exactement 15 jours de la fin du mercato, ça pourrait coûter très très cher à l'AS Monaco. Ou bien coach à une éventuelle punition de Kylian Mbappé par Leonardo Jardim. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé a annoncé à tous ses proches qu'il souhaitait quitter l'AS Monaco, qu'il était très déçu par la compétitivité de l'équipe, que sa réflexion était quasiment définie, que il avait plus ou moins acté son choix, mais qu'il ne voulait pas le dire aux médias, qu'il ne voulait pas l'affirmer tant que les clubs ne s'étaient pas mis d'accord, qu'il est très intéressé par un départ au PSG, à l'idée de jouer avec Neymar notamment. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que pour l'instant, aucun club ne s'est mis d'accord avec l'AS Monaco. Donc que ça soit le PSG, que ça soit le Real Madrid, que ça soit Manchester City, aucun ne s'est mis d'accord. Il y a encore juste avant le week-end, le PSG n'avait pas transmis d'offre pour Kylian Mbappé, et on est dans une situation de stand-by là aussi, parce que c'est un transfert très complexe, il vaut 180 millions d'euros. Mais il y a un autre problème, c'est que cette situation, elle commence à agacer le vestiaire de l'AS Monaco. Mmh. Le vestiaire de l'AS Monaco qui était qualifié de plus beau vestiaire la saison dernière de la Ligue 1, avec des sourires partout, des Bernardo Silva, des Benjamin Mendy, eh bien ce vestiaire qui est fait aussi de gens expérimentés comme Subasic ou Radji commence à s'agacer de cette situation.
On a cette phrase quand même de Leonardo Jardim hier: j'ai donné leur chance à d'autres joueurs, sous-entendu donc Kylian Mbappé, pour la construction de l'effectif. Ça en dit long quand même, ça veut dire qu'il cherche à construire, et il cherche à construire sans Mbappé.
Ben, si tu veux, il est obligé de au moins de chercher à construire dans les deux cas de figure, et de voir notamment hier c'était avec Diakabi, s'il n'y a pas la possibilité de saisir l'occasion pour aller augmenter les chances de départ d'Mbappé, puisque maintenant on est plus en train de penser à l'endroit où il va partir que tout simplement est-ce qu'il va partir. Alors que il y a quelques semaines de ça, j'étais pas sûr qu'il ne fasse pas une dernière saison à Monaco.
Alors, et ça, on en parlera avec nos auditeurs dans quelques secondes. Mais il y a autre chose qui agace le public monégasque, le vestiaire monégasque, c'est que le joueur Kylian Mbappé ne s'exprime pas. Après, on sait très bien que dans un transfert, on ne s'exprime quasiment jamais, on ne peut pas.
Après, il a quand même un comportement irréprochable. Franchement, il sourit, il saute hier sur le but de Falcao.
Le truc, c'est que. Non, mais là-dessus, au moment, on s'est déjà positionné. Et moi, avec quand même un peu d'expérience,
40 ans.
J'ai simplement dit que à partir du moment où Neymar, quand on parlait de Neymar, n'a pas fait de conférence de presse en disant je reste au Barça, ben c'est qu'il était dans sa tête en train de partir. Mais Mbappé, si justement avec tout ce qui se dit sur lui, ne fait pas une conférence de presse pour régler le problème en disant je reste à Monaco et ne me parlez plus de transfert, ben c'est que dans sa tête il est plutôt sur le départ que sur le fait de rester.
Je t'évoquais Roland, une photo que Kylian Mbappé vient de poster sur les réseaux sociaux avec le maillot de l'AS Monaco et avec un petit signe de la main, un petit signe de la main et un drapeau de l'AS Monaco. Donc en gros, certes il ne s'exprime pas,
il n'a cessé de faire ça depuis le début,
mais il y a un petit peu de jeu qui comment ça peut agacer les supporters.
Ouais, et bien justement, on va en parler avec Marc, supporter de l'AS Monaco, qui a fait le 32-16. Salut Marc.
Salut messieurs, bonjour Roland.
Salut Marc.
Bonjour Marc. Je te repose la question qu'on se posait au départ. Est-ce que Monaco a besoin de Mbappé pour réussir finalement?
Pour moi, je vais dire que oui. Pour cette année au moins, l'année de transition, il ne devrait surtout d'abord pas partir au PSG, parce que si on ne veut pas avoir les problèmes qu'il y a eu il y a deux ans avec le PSG avec 3 points d'avance, ben il ne faut pas qu'il ait au PSG d'abord. Où il va au Barcelone, où il va au Real de Madrid, où pour moi il reste une saison de plus, ce qui serait beaucoup mieux pour lui, et le club ne perdra pas d'argent l'année prochaine en le vendant, parce que normalement il devra être encore meilleur qu'il est cette année. Il faut quand même jouer, dire qu'il n'a joué que 6 mois, il n'a que fait qu'une dizaine de matchs un peu super performants, mais à part ça,
il n'a pas plus quand même. Complète. Une dizaine, c'est un petit peu dur. Il en a déjà fait une dizaine en Ligue des Champions en performant.
Ouais, mais par contre, les 6 mois, non, c'était 4 mois et demi plutôt.
Roland, s'il te plaît, si hier, à la place de Rony Lopez, Kylian Mbappé joue à droite à la place de Lopez, en alternance avec Diakabi et Falcao, ben c'est pas 4-1, hein, c'est 7-8-1 qu'on gagne. Hein. Alors moi, je crois qu'on en a besoin, et il faut au moins le garder encore un an. Si déjà Monaco veut que tous ses supporters viennent au stade, parce que moi, j'ai pas encore pris mon abonnement, j'attends d'abord de voir ce qui va se passer, et ça, beaucoup d'autres pensent comme moi. Et alors moi, je pense à une chose, si jamais Mbappé devait partir, et j'espère bien pas au PSG, mais qu'il se rapproche de Diego Costa. Parce que Diego Costa est en mal avec Chelsea, il veut retourner à l'Atlético, qui ne peut pas jouer avant le mois de janvier. Donc pourquoi pas essayer de trouver un arrangement pendant 6 mois. Monaco pourrait refaire la paire Falcao-Diego Costa, qui à 4-5 ans était super à l'Atlético Madrid. Et je pense que là, on serait plus que performant.
Coach.
Bah écoute, là, sincèrement, tu nous surprends, parce que justement de parler d'Mbappé après de nous donner la solution pour remplacer Mbappé, ça c'est quand même assez surprenant. Moi, disons que je regarde pas par rapport à Dijon. Je te rejoins quand je dis que Mbappé évidemment sera difficile à remplacer. Le Mbappé des 4 derniers mois, il était tout simplement insaisissable, inarrêtable et apporté un petit plus. N'oublions pas que Monaco a perdu déjà Germain. Ça n'a fait médiatiquement qu'une ligne, mais les trois attaquants qui se partageaient le boulot en jouant à deux, encore que
c'était... Je suis d'accord, Roland, donc... mais Toubi que Jacabi est arrivé, Toubi que Carillo qui était blessé l'année dernière revient en forme. Et Carillo en forme, c'est une dizaine de buts comme Germain l'année dernière. Et Carillo, c'est oui. Aussi un garçon qui va rien dire.
On parle d'Mbappé, la question c'est est-ce qu'Mbappé manquera à Monaco? Moi je te dis que oui.
Mbappé, Jacabi et Falcao, en réserve Carillo, je crois que c'est pas grave si Germain est parti. C'est pas grave pour moi si Bakayoko est parti parce que Tillman c'est deux fois plus fort. Donc voilà, il faut qu'il garde Fabinho. Il faut qu'il garde Tillman. Je ne comprends pas les matchs qu'il a fait en préparation, le match qu'il a fait contre Paris, il était exceptionnel et il ne le fait pas jouer ou le fait jouer à 5 minutes de la fin. Ouais. Je ne comprends pas ce qu'il fait.
Il n'a pas été titulaire effectivement sur les deux premières journées de Ligue 1. Merci Marc d'avoir fait le 32-16. Mathieu également nous attend au 32-16, supporter de l'ASM. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Bon, je te repose toi aussi la question. Est-ce que finalement l'AS Monaco peut réussir sans Kylian Mbappé?
Bon, déjà, il faut féliciter les dirigeants d'avoir pris la décision de le mettre sur le banc hier, parce que c'est une décision qui est venue des dirigeants monégasques. Donc pour ça, moi, je les félicite parce que il laisse pas. On sait tous qu'Mbappé c'est la star de Monaco aujourd'hui, et il se laisse pas. On va dire, il se laisse pas influencer par son choix de vouloir peut-être partir, vouloir rester. On sait pas trop. Donc déjà pour ça je les félicite parce que c'est un bras de fer énorme ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui et voilà. Après oui, on a besoin de le garder. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il se remette la tête en place parce que c'est un gamin quand même qui est très intelligent et très talentueux. Maintenant, il faut savoir d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'Mbappé est privé de match? Est-ce que tout simplement il a envie de partir? Moi, je pense que c'est à cause du Paris Saint-Germain, tout simplement. Parce qu'ils ont approché Mbappé sans approcher l'AS Monaco, avec leur petit dîner aux chandelles, style on va te proposer 30 millions par an ou je sais pas combien. Du coup, Mbappé, il avait le forcing du Real. Mbappé, il a demandé le même salaire qu'il allait avoir à Paris au Real Madrid. Le Real Madrid lui a fermé la porte en lui disant « Écoute, Coco, t'as que 18 ans, donc tu vas te calmer ». Et voilà, et aujourd'hui, il est à Monaco et il a les fesses entre deux chaises, tout simplement. Mmh.
C'est fort possible.
Et Fabinho, c'est la même chose. Le PSG l'ont approché sans approcher l'AS Monaco. Ouais. Et ça, c'est inquiétant pour la Ligue 1, moi, je trouve, parce que c'est une concurrence déloyale, je trouve, ce qu'ils sont en train de faire le PSG en ce moment. Je parle pas du transfert de Neymar. Que le transfert de Neymar, c'est leur pognon. Moi, je m'en fiche qu'il est, on va dire, presque arraché au Barça, parce que le Barça voulait pas le laisser partir. Mais bon, voilà, ils ont payé une clause. Mbappé aujourd'hui il a pas de clause. Donc avant d'approcher le joueur,
ça fonctionne pas comme ça en France.
Oui, mais avant d'approcher le joueur, il faut d'abord approcher le club. Si le club refuse de te le vendre, ne l'approche pas.
Si je peux me permettre, Mathieu, c'est très bien ce que tu dis et c'est dans le cadre légal de la FIFA, mais c'est une pratique qui est exercée par tous les clubs et notamment l'AS Monaco. Donc en gros, tu ne peux pas reprocher au PSG ce que le PSG fait sur Kylian Mbappé alors que Monaco le fait à tous les clubs et à tous les joueurs.
Bah, je sais pas si vraiment Monaco le fait sur tous les joueurs. Hein.
Après, non, mais pas tous les joueurs, mais je veux dire, tu vois, par exemple, un truc tout bête, le Real Madrid a demandé. Avec lettre écrite à l'AS Monaco de négocier avec Kylian Mbappé. Voilà, ça c'est clair. Le Real Madrid discute avec et a eu la classe de le faire. Après, l'AS Monaco s'est agacé, s'est mis en colère contre les méthodes de certains clubs, clairement visant le PSG, parce que le PSG a attaqué Fabinho, a attaqué Mbappé, donc ça fait deux joueurs, deux cadres très importants de l'équipe. Sauf que l'AS Monaco fait exactement la même chose avec plein d'autres clubs et plein d'autres joueurs.
On remercie Mathieu d'avoir fait le 32-16 supporter de l'AS Monaco. Bah tiens, Mohamed, je me retourne vers toi. C'est quoi un petit peu là les suites du feuilleton? Et puisqu'on parlait de Fabinho, où on en est, parce que Fabinho aussi l'a laissé entendre quand même hier à travers certaines déclarations que le club savait tout lui de sa volonté et ça voulait visiblement pas dire qu'il avait envie de rester quoi.
Non, clairement Fabinho a annoncé à ses dirigeants qu'il avait envie de partir, qu'il avait envie de quitter le club. Aujourd'hui, on est dans une situation où Jorge Mendes, qui est l'agent de Fabinho et qui travaille avec les représentants de Fabinho, essaie de trouver une solution pour mettre Fabinho où ça ? Au PSG.
Au PSG.
Voilà, puisque Fabinho a envie de rejoindre le PSG et que Unai Emery veut Fabinho au PSG. Et on est dans une situation où le club a envie de réaliser le rêve, je pense, de tous les coachs en Europe et notamment d'une personne qui est en face de moi. Je pense que Roland aurait adoré avoir Mbappé, Cavani, Neymar dans son équipe et ça fait rêver l'émir, ça fait rêver Nasser Al-Khelaifi.
Tu peux rajouter Pastore.
Voilà, et je pense que cette attaque mettrait des buts. Et après, il y a aussi le souci de Unai Emery qui veut absolument un numéro 6 ouais. Et qui veut un milieu de terrain parce que... il comprend que ce milieu de terrain Thiago Motta, Matuidi, Verratti et Rabiot a besoin de 109 aussi.
On en a évidemment longuement parlé. Juste un petit mot de la suite du feuilleton
on
Mbappé.
On peut faire des grands mots aussi.
Non mais parce qu'on en a longuement parlé tout à l'heure et tu sais après.
Oui. C'est vrai que Fabinho est brésilien.
Oui.
Donc ça leur fera un brésilien de plus.
Et ça pose ouais. Ça pose souci effectivement.
Non, ça pose pas de souci au PSG puisqu'ils sont dans le quota des extra-communautaires ouais. Donc il n'y a pas de problème.
Juste la suite du feuilleton Mbappé.
La suite, elle est très simple. Aujourd'hui, il va y avoir encore des discussions entre l'entourage du joueur et l'AS Monaco, mais on est dans une situation qui semble pour le moment un peu fermée, même si Mbappé est encore, et c'est ce qu'on espère à l'AS Monaco, on espère un peu de raison pour le joueur, parce qu'on ne peut pas, en tout cas l'AS Monaco explique qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences astronomiques de Kylian Mbappé et de son entourage. Si le PSG est capable de réaliser un montage financier qui lui permettra de passer dans les clous du fair play financier et d'éviter tout problème, eh bien là, un départ au PSG sera une possibilité, même si Vadim Vassilev ne veut pas vendre à Paris. Le problème, c'est que pour l'instant aussi, le Real ne s'est pas clairement positionné en transmettant une très grosse offre et qu'au Real, on pense que Mbappé va aller au PSG.
Juste pour terminer avec toi, coach, sur l'AS Monaco et ce qu'on a vu quand même hier, même ce qu'on a vu sur la première rencontre et cette victoire 3-2 en ouverture de la Ligue 1 face au TFC. Déjà 7 buts en 2 matchs, on a quand même l'impression, tu vas me dire si je me trompe, mais que rien ne peut leur arriver, c'est assez monégasque. Ça fait quand même la 14e victoire d'affilée en Ligue 1. On leur avait prédit l'enfer avec des histoires de calendrier. Oui. On leur avait prédit un début de saison difficile parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs joueurs clés et finalement ils continuent à gagner largement contre des équipes certes qui sont d'un niveau peut-être un peu plus faible mais quand même ils gagnent.
Oui, premier match avec un petit peu de difficulté quand même face à Toulouse. On parle de Monaco, parlons quand même 2 minutes de Dijon qui viennent de faire 2 matchs avec un calendrier qui leur donne Marseille à Marseille et Monaco à la maison. Le match de Marseille, on l'a vu, cette première mi-temps était quand même très bonne, et la blessure de Lotoa, qui fait partie des arrières centraux que j'aime beaucoup, a été pour moi le tournant du match, et cette perte est très très lourde pour les Nancéens. Et c'est vrai que contre le Monaco d'hier, Dijon a eu pas mal de problèmes. J'ai dit
les
Dijonais parce que
c'est comme on est poli, on te reprend pas.
Non, mais parce que je vois cette équipe de Nancy, on en parlait tout à l'heure, donc c'était un lapsus, qui était un petit peu avec les mêmes difficultés que Lyon dans le même secteur, c'est-à-dire un arrière central gaucher qui est en partie, lui n'était pas blessé, il a tout simplement été vendu. Ça fait quand même pas mal de dégâts.
Ils ont pris un ancien joueur que tu connais bien, Nancy. Ils ont pris Nicolas Saruf.
Ouais, mais c'est pas mal du tout. Je crois qu'ils ont pris Yaya aussi de Caen qui
et il devrait prendre ce soir à Jérémy Clément. Voilà.
Pour certaines expériences, donc ça fait quand même des renforts. Donc, pour ce qui est de Monaco, quand on regarde le Monaco d'hier, on ne doit pas être surpris, ouais. Puisque là, Fabinho n'est pas encore parti, Falcao est toujours en pleine forme et je ne sais pas s'il n'est pas encore mieux que la saison dernière. Parce que la saison dernière, elle était déjà très très bonne, mais on pouvait penser qu'il était
quatre
pas
buts en deux matchs déjà.
Qu'il était pas encore revenu à 100%, et là, il est peut-être près des 100% après sa blessure. Alors, c'est sûr que si le match d'hier, sans Mbappé, d'accord. Si tu enlèves Fabinho, je sais pas si là, ça fera pas trop. Mais avec Fabinho, et un Mbappé, le Monaco de cette année peut encore faire une très très belle saison.
Bon, allez, la conclusion.
Ce que je peux juste te dire, Roland, c'est que après le départ d'Mbappé, s'il se concrétise, l'AS Monaco voudra réaliser un très gros coup en attaque.
Allez, voilà, c'est dit. L'info de.
Donc, on a encore un mercato qui va.
Merci infiniment.
Nous donner des possibilités de parler encore.
Ces informations. On continue dans un instant, évidemment, de débriefer cette deuxième journée de Ligue 1. On va parler de ce match rocambolesque entre Strasbourg et Lille. Victoire des Strasbourgeois 3-0. On sera, tiens, avec un journaliste que vous connaissez bien, qui était à la Méno, pour la rencontre hier. Gilbert Bribois va tout nous dire de cette rencontre. À tout de suite.
RMC Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
À 17h27 dans l'Intégral Foot sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 18h avec Coach Courbis. Et je vous propose de revenir sur la victoire strasbourgeoise 3-0 hier face à Lille. C'était le premier match en Ligue 1 à la Méno depuis un bon bout de temps. Et les Strasbourgeois qui se sont imposés. Tiens, je vous pose cette question, Bielsa s'est-il trompé? On va en parler. On va en parler notamment avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut à tous.
Salut Gibus.
Premier match à la Méno depuis 9 ans.
Depuis 9 ans.
Depuis 9 ans, j'avais encore des cheveux.
Voilà. Et là, tu n'en as plus.
Bah ouais.
Tu n'en as plus, mais par contre, t'as vu du spectacle. Ah, oui. Alors, j'ai posé cette question, Gilbert Bielsa s'est-il trompé? Tu vas nous expliquer un petit peu, nous raconter le scénario de cette rencontre et on en parle après. De la rencontre, parce que, enfin, par rapport à toutes ces histoires là de gardiens notamment, alors, il y a eu trois.
Sur Bielsa, c'est assez, parce que moi je me suis quand même, parce que quand tu vois au stade de la Méno arriver Bielsa, tout le monde était un peu curieux, on regardait ce qu'il faisait et tout. Déjà Bielsa, faut savoir, enfin moi ce qui m'a assez étonné par rapport à ce qu'il faisait à Marseille, on le voyait toujours sur sa glacière devant le banc de touche, où il était l'homme qui donnait les consignes. Là, Bielsa ne sortait quasiment pas de son banc, c'est son adjoint en permanence qui va donner les consignes. Donc ça, c'est peut-être un fonctionnement nouveau qu'il a avec son adjoint, je sais pas, enfin ça change par rapport à Marseille.
Peut-être ils n'ont pas filé la glacière.
Ah, peut-être il n'y avait pas de glacière. Bon, bref. En tout cas, il est resté sur son banc en toute la première mi-temps. Il est sorti à un moment, c'est quand il a donc fait ce choix qui est le choix qui, selon moi, est une erreur, d'avoir fait ce fameux troisième changement. Donc je rappelle ce qui s'est passé. Deux joueurs sortent sur blessure très vite dans le match. Donc au bout de
12 minutes, je crois.
Pour le premier, 26 ou 27 minutes pour le deuxième. Et donc, à la 38e minute, là, il reste donc un changement possible pour Bielsa. 38e minute, hein. Et là, il y a Balot Touré qui, il est vrai, était plutôt en difficulté, sur son côté en défense, et qui, a tout passé effectivement par le côté de Balot Touré, qui était le côté du Strasbourgeois, j'ai oublié surtout l'ancienne Valenciennes, Capverdien, c'est un bon mire.
Ouais.
Bref, en tout cas, la recrue strasbourgeoise là, qui a fait un bon match passé de ce côté-là, et là, Bielsa juge Lala qui est latéral, mais devant Lala. Je vais y revenir. Bon,
on va trouver ça.
En tout cas, Bielsa juge que Balot Touré, est complètement à la rue. En gros, c'est ça. Il a déjà un carton jaune, et là, il sort Balot Touré alors que c'est son dernier changement. Donc là, effectivement, on se dit « Waouh, que se passe-t-il ?» Bon, sur le moment, les gens trouvent ça un peu dingue. On se dit que c'est
Dacosta, tu cherchais.
Dacosta, voilà. Et en fait, il prend un risque terrible. Parce que derrière, effectivement, s'il y a un carton rouge, son équipe termine automatiquement à 10. Là, le scénario a fait que c'est tombé sur son gardien de but. Donc alors, la bêtise est aussi du gardien de but, puisque très franchement, Maignan, sachant que tous les changements ont été faits, il aurait peut-être mieux fait de se maîtriser avant de balancer le ballon dans la tête de Cornier un petit peu plus tard, ce qui a provoqué son exclusion. Donc, de mon point de vue, Bielsa, là, a fait une erreur manifeste. Je veux dire, 38e minute, que tu fasses ce choix-là de troisième changement à la 75e, ça peut s'entendre en fonction du score. Et donc, le truc le plus dingue qui arrive ensuite, c'est que une fois le gardien Maignan expulsé, donc c'est un joueur de champ qui est obligé d'aller dans la cage. Donc d'ailleurs, là, ça a créé je sais pas si vous avez vu, si à la télé, ça s'est bien vu, mais Bielsa est carrément là, rentré sur le terrain, pour essayer de réorganiser un peu les choses, parce que qui on met dans les cages, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, ils étaient sur le terrain, donc l'arbitre a été obligé de repousser tout le monde en dehors du terrain le temps que ça s'organise. Donc il y a eu un flou assez impressionnant. Donc De Préville, attaquant de pointe, se retrouve dans les cages. Il y a toujours 0-0 à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui crée dans le stade un truc un peu étrange, parce que là, tu te dis 0-0, si jamais Strasbourg n'arrive pas à gagner ce match, c'est la honte. C'est-à-dire là, tu te dis il n'y a plus de gardien en face. Finalement, Strasbourg marque avec un vrai gardien. Peut-être que le but de Jonas Martin n'aurait pas été marqué, mais enfin bon, on a bien vu que sur un corner, il reprend le ballon à ras de terre, but, 1-0. Et là, Bielsa se dit, moi maintenant, il faut que je revienne au score, j'ai plus d'attaquant. Donc qu'est-ce que je fais? Mon attaquant que j'ai mis au but, je le sors et je mets Amadou au cage. Et donc là, on voit tout à coup, lors d'un arrêt de jeu, Bielsa qui fait des grands gestes sur le banc, Amadou qui va enlever son short, mettre le short qui avait de prévu, enfin, genre match amateur du dimanche matin, quoi. Vas-y Arnaud, il est nul au but, sors-le, t'as qu'à mettre Roland, tu vois. Non mais c'était un peu ça.
C'est vraiment arrivé ça, ça m'est vraiment arrivé ça.
je schématise, mais c'était surréaliste. Donc ça se finit avec Amadou au cage, le pauvre de Préville qui était tout seul en pointe, il a rien pu faire, et derrière Amadou quand même sur les deux autres buts, on peut considérer qu'il est un peu responsable parce que il y a un tir de loin, Amadou n'est pas gardien de but donc il bloque pas un ballon qui est repoussé, ça crée un penalty derrière alors que c'est une frappe qui était pas exceptionnelle, et puis derrière il y a une frappe de Grimm que peut-être un vrai gardien aurait pu détourner mais qu'Amadou a pas pu détourner.
Au bilan 3-0, 3 gardiens, 3 changements précoces et voilà 3 points qui s'échappent pour les Lillois, d'où cette question, Bielsa s'est-il trompé? On en reparle dans un instant avec Coach à 17h32. On fait le point sur l'actu sportive du jour. Avec Aurélien Thiersin. Et Aurélien, nous parles évidemment des champions du monde fatigués, des champions du monde de la tétine fatigués mais rentrés.
Exactement, ils n'ont pas beaucoup dormi, le décathlonien Kevin Mayer et le marcheur Johan Dennis de retour de Londres en héros. Ils sont arrivés à la gare du Nord à Paris en début d'après-midi. Pas de raz-de-marée de supporters, mais une trentaine d'admirateurs malgré tout. Et avec sa médaille d'or mondiale à 39 ans, Johan Diniz a du mal à réaliser son exploit.
Pour l'instant, c'est encore un peu difficile parce que moi, j'ai pas eu trop de temps pour me reposer. Kevin, vous verrez, après, il est déjà bien reposé, mais il est un peu fatigué d'une autre façon, on va dire. Il en a déjà bien profité. Moi, ça a été un peu plus dur pour l'instant parce qu'il y a eu plein de choses à faire derrière. Donc, on va attendre que ça redescende tranquillement. Mais oui, je commence quand même à réaliser que j'ai apporté une belle médaille hier à la délégation.
Il nous la montrera, sa très belle médaille. Johan Diniz, il sera avec nous en direct sur RMC Sport dans l'intégrale. Il répondait au micro de Mathieu Charret. Nous aurons également Kevin Mayer, sans oublier Mélina Robert Michon en bronze au lancer du disque dans l'intégrale sport. C'est à suivre donc sur RMC. 5 matchs de suspension pour Cristiano Ronaldo, le Portugais puni après sa poussette sur l'arbitre hier soir lors de la finale aller de la Supercoupe d'Espagne. C'était entre le Real Madrid et le FC Barcelone. De la Ligue 2 ce soir avec des gros budgets du championnat. Lorient, d'abord les Merlus de Michael Landreau reçoivent Châteauroux à 18h45. Puis ce soir, c'est Nancy, 18e seulement après 2 matchs, qui se déplace dans le Gard pour affronter le Nîmes Olympique.
RMC, le Mercato Show.
D'abord avec le Barça qui essaie de se consoler un peu après le départ de Neymar. Il achète un autre Brésilien, Paulinho, le milieu du Guangzhou Evergrande en Chine arrive à Barcelone contre 40 millions d'euros. L'international brésilien jouait avant à Tottenham. Il fait donc son retour en Europe à l'âge de 29 ans. Les pistes offensives par contre sont au point mort. Ousmane Dembélé toujours à Dortmund. Même si selon Sport, le quotidien catalan, les Allemands auraient accepté une offre de 100 millions d'euros, il y aurait des problèmes pour les bonus. Paris qui devrait se séparer de l'Espagnol Ressé selon le média britannique Sky Sports. Il devrait être prêté avec option d'achat Stoke City. Les Potters et les Parisiens seraient tombés d'accord. Javi Garcia signe au Betis Séville, un temps suivi par les Girondins de Bordeaux. Le milieu espagnol du Zénith signe finalement donc 3 ans en Andalousie. Direction Cincinnati pour terminer avec le Masters 1000 de tennis. Richard Gasquet est sur le court en ce moment même. Il mène contre l'Australien John Smith 3 jeux à 1. Dans une heure, ce sera au tour de Benoît Paire contre un Américain, Mitchell Krueger. Puis dans la soirée, il y aura Kristina Mladenovic, Océane Dodin chez les dames. Et pour terminer en beauté à 3h du matin, Gaël mon fils.
Merci beaucoup Aurélien Thiersin.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Souk.
On revient sur notre débat, coach Courbis, Gilbert Bribois également sur notre débat. Bielsa, s'est-il trompé? Tiens, sur le hashtag RMC Live, ça réagit pas mal. Bielsa ne s'est pas trompé, nous dit-on. Son troisième changement aurait pu s'avérer payant. Or, ce n'est pas le cas, mais finalement, Bielsa, c'est ça. C'est vrai que, en fait, ce changement à la 38e, on le critique, mais peut-être que dans la tête d'un entraîneur, c'est assez clair. Enfin, tu as peut-être cette. Enfin, c'est pas non plus. Bielsa, il n'a pas l'habitude de faire ça. Je veux dire, je crois que c'est l'une des premières fois de sa carrière qui fait les 3 changements en première période. Peut-être que c'est une erreur. Bon, il la paye cher, mais finalement. Non,
les 3 changements à la première période ou un troisième changement alors qu'il y a déjà eu 2 blessés.
Les 3 changements en première période.
Ça que ce soit, mais pourquoi on va faire un débat à partir du moment où Bielsa lui-même, c'est quand même un gars spécial, Bielsa. Bielsa lui-même reconnaît s'être trompé, donc on va être.
Attends, Roland, après le match, il a dit, si c'était à refaire, je le referais.
Oui. en expliquant que pourquoi il avait sorti en l'occurrence Balotouré, ouais. En expliquant que c'est parce qu'il le sentait trop nerveux et que comme il avait déjà un jaune, il était à peu près sûr qu'il prendrait un deuxième jaune si jamais il restait sur le terrain parce qu'il prenait complètement l'eau.
Alors je pense qu'il y a des conneries, on en fait tous, y compris les meilleurs, la preuve, hein, puisque bon, on peut considérer que Bielsa a fait une connerie. Eh ben ça arrive à tout le monde, mais de notre côté, il y a certaines conneries, par exemple, que d'autres entraîneurs ne font pas. On en fait peut-être d'autres. De toute ma carrière, à tort ou à raison, même s'il n'y avait pas eu de blessés avant, je n'ai jamais sorti, sauf sur blessure. Là, c'est pas moi qui ai sorti, c'est la blessure. Un joueur en première mi-temps, c'est quelque chose pour moi qui sur un plan psychologique est une catastrophe. Tu sors un joueur à la 38e minute, tu lui mets un coup de massue sur la tête, eh bien peut-être c'est pas pire. Que tu puisses rectifier s'il y a un côté qui prend l'eau en mettant aller un milieu devant l'arrière latéral qui prend l'eau parce que il prend l'eau pas seulement parce qu'il n'est pas dans un bon jour, peut-être aussi parce que le côté est moins solide et c'est peut-être aussi le point fort de ton adversaire. Tu peux tranquillement passer 5 à 6 minutes de plus pour atteindre la mi-temps et ne pas faire l'affront à un joueur de le sortir à 7 minutes de la fin. Oui. C'est ça qu'on peut, si tu veux, reprocher. Mais c'est quelqu'un de spécial, Bielsa. Bielsa, il t'explique déjà 48 heures avant sa composition d'équipe, il te la donne, il t'explique les points forts, les points faibles de sa composition d'équipe, il t'explique les changements qu'il faut faire en fonction de telle ou telle organisation pour pouvoir répondre à telle ou telle organisation, mais tu as tout le menu de A à Z, donc c'est quand même quelqu'un de particulier.
D'ailleurs, la façon dont Strasbourg a pressé d'entrer l'équipe de Bielsa hier, dès le début du match, alors qu'on était encore 11 contre 11, et peut-être aussi une réponse au style Bielsa, c'est-à-dire que c'est les relances courtes. Mike Maignan, le gardien de but, a très rarement relancé long, donc c'est clairement des consignes de Bielsa.
Oui.
Et il envoyait donc le ballon allait soit vers les latéraux, soit vers les défenseurs centraux. Pressing permanent de Strasbourg qui récupérait un nombre assez impressionnant de ballons comme ça dans les 25 premières minutes. Et malgré ça, Maignan continuait de relancer court. Donc consigne. Et coach avec Montpellier, je me souviens, t'avais fait à peu près la même chose.
Oui, bah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, Bielsa, effectivement, en dévoilant ses armes, eh ben, il donne aussi les réponses pour se faire piéger, quoi.
Et là où je le trouve particulier, on peut dire particulièrement sympa, c'est que j'ai bien lu, tu me dis si je me trompe, il félicite l'adversaire, il félicite le coach d'en face d'avoir bien répondu à ce que lui voulait faire, et pratiquement, il a pas eu de son équipe ce qu'il attendait, et il dit bravo à l'adversaire. Je te dis, c'est quand même un gars qui est sportif, on ne peut mieux. Et tu le vois jamais dire un mot contre un arbitre, jamais se plaindre de quoi que ce soit. Et là, il reconnaît s'être trompé, peut-être pas sur ce changement, mais s'être trompé déjà sur le match en lui-même. Et bon, lors de la première victoire, il avait déjà annoncé, on va voir si on est capable de renouveler le même match. Mais ça n'a pas été le cas, parce que avant même tous ces faits de jeu, j'avais trouvé Strasbourg pas mal du tout.
Allez, on accueille Johan, supporter du LOSC, qui a fait le 32-16. Salut Johan.
Oui, salut tout le monde.
Salut Johan.
Bon, à ce que disent coach et Gilbert, qu'est-ce que tu réponds, toi, selon la, qu'est-ce que t'as pensé du coaching de Bielsa?
Alors déjà pour commencer, je crois que j'ai jamais été autant énervé devant un match depuis l'époque de Gérard, déjà d'une part. Donc j'ai vraiment été super vénère à la fin du match, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé. Après, je voudrais déjà dire au niveau des réseaux sociaux, j'ai lu que la victoire de Strasbourg était pas méritée, etc. Au niveau des supporters du LOSC, on n'a pas dû voir le même match. Parce que Gilbert, comme tu disais, au niveau du pressing, il n'y avait rien à dire au début du match, on a été bouffé, mais du début à la fin. Et concernant le coaching, ok, alors les trois changements, moi j'avais déjà vu ça à Marseille, mais en début de seconde période, je crois, si je ne me trompe pas, vous allez peut-être me confirmer.
Et, il avait fait un jour trois changements d'un coup.
Non, alors si j'ai le temps de vous raconter cette anecdote, à partir du moment où tu veux faire d'un gars, qui est un gars particulier et qui a certaines qualités qui font que, en ce qui concerne ses entraînements, on peut dire que c'est le meilleur entraîneur du monde. En ce qui concerne son management, sur le plan de la relation avec les joueurs, là, il y a peut-être certaines choses à revoir. Mais quand tu es parti sur l'idée de faire d'un gars un phénomène, après qui le mérite ou pas, ça c'est pas le débat d'aujourd'hui. Je me rappelle que c'était à Saint-Étienne. Bielsa ne change pas trois joueurs, il en change deux. Et il y a une erreur que lui-même te raconte après le match, et c'est ce qui pour moi le rend on ne peut plus sympa, c'est d'avoir cette franchise d'essayer de t'expliquer clair et net les choses. Le journaliste veut à tout prix, puisque quand il y a ces trois changements, le journaliste qui a déjà terminé son papier qu'il a dû l'envoyer à son patron, il veut à tout prix que ce soit un génie. Oui. Et Bielsa, quand tu lui expliques, non mais le troisième changement, je le fais pas exprès, je crois que Djadjidjé est blessé, il me fait signe comme ça avec les doigts qui tournent alors qu'il me fait un geste que j'ai pas compris, j'ai cru qu'il était blessé et j'ai fait le troisième changement. Parce que derrière ces trois changements, l'OM égalise, l'OM prend l'avantage et après Saint-Étienne égalise. Et tu as le journaliste en face qui dit, mais non, tu es un génie, tu as fait les trois changements, arrête tes conneries, tu l'as fait exprès le troisième changement. Donc, enfin, à tout prix, il faut que ce soit un génie.
Sur lui un truc à Bielsa, c'est que en un match de Bielsa, à chaque fois,
et Bielsa qui était, mais non, je te dis que j'en fais rentrer que deux, il a failli l'insulter, il a dit le troisième, c'est pas moi, c'est une erreur.
Allez, merci Johan, supporter du LOS, d'avoir fait le 32-16. Juste un petit mot de conclusion, Gilbert. Mm-hmm. Bon, finalement, Strasbourg, retour réussi à la Méno, et on avait été très inquiet après le premier match. Là, on a vu autre chose de la part des Strasbourgeois.
Ah ouais, alors c'est une équipe où il n'y a pas de stars, où il n'y a pas de joueurs avec une grande expérience de la Ligue 1, mais effectivement, là, bon, ça reste à confirmer pour eux. Hein, espérons que ça continue, mais il y a un effet aussi domicile.
Ouais.
Parce qu'il y a
Strasbourg, c'est...
Y a près de 20 000 abonnés, il y a une ambiance de dingue, il y a une folie furieuse là-bas dès que Strasbourg joue.
C'est vrai
donc,
que les
c'est peut-être les résultats à la maison qui vont leur faire obtenir le maintien.
Quand le speaker dit merci, les supporters répondent en cœur de rien. Ça, c'est génial. Je trouve ça absolument génial.
Pour lui,
Gilbert, on te retrouve ce soir dans l'after. Un petit mot du programme, peut-être.
Merci.
Ce soir.
De rien.
Voilà, exactement. J'en avais avec Bruno de rien, je le précise. Que Roland connaît bien. Attendez. Du coup, oui, l'after. Avis de Daniel Riolo sur la Ligue 1. Avis de François Malandro sur Monaco. On va reparler de Bielsa. Et puis, il y aura Philippe Auclair. Il y aura également Simone Rovera. Plus le mercato, bien sûr, de 21h à 23h tout à l'heure.
Tiens, mais justement, la première ligue, on en parle dans un instant sur RMC. On revient sur cette première journée avec les Français qui ont brillé. À tout de suite, 17h44.
RMC, Intégral Foot, Roland Courbis, Arnaud Sou.
À 17h45 dans l'Intégral Foot sur RMC avec Coach Courbis. Jusqu'à 18h, on revient sur cet énorme premier week-end, cette énorme première journée de Première Ligue. 31 buts déjà, vous les avez vécu peut-être sur SFR Sport. Jérôme Sillon, justement, journaliste SFR Sport, est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Arnaud, salut coach, bonjour à tous.
Salut Jérôme.
Pour notamment revenir sur des résultats comme cette victoire 4-3 d'Arsenal face à Leicester ou encore la victoire 4-0 de Manchester United face à West Ham.
LMC Match Replay.
Le corner Arsenal avec Xhaka. Énorme pression d'Arsenal. Oui,
elle est gagnée. Elle y est. Bien sûr. Elle est miracle. Scénario complètement dingue.
Centre pied droit. Bellerin la remise avec El Nini.
D'entrée la casette. C'est fou. Que rêver de mieux. Qu'un but.
Il combine bien encore avec Paul Pogba.
Bien joué
Paul Pogba pour se mêler à la fête. Oh, quelle première à Old Trafford. Un doublé de Lukaku, un but de Martial et un but de Pogba.
Bon, je sais pas si c'est vraiment une révolution d'avoir 31 buts lors d'une première journée de Première Ligue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est éclaté ce week-end, Jérôme.
Ah, c'était complètement dingue pour donner le coup d'envoi de cette saison 2017-2018 avec Eric Dimeco. On s'attendait pas à prendre deux gifles comme ça pour commencer la saison à l'Emirates pour Arsenal et puis ensuite à Chelsea, parce qu'on n'a pas entendu les buts de Chelsea, mais le champion a été mis à terre après avoir fini le match à 9 face à Burnley, totalement improbable. Il s'est passé des choses complètement folles, mais on s'est régalé avec des scénarios dingues et finalement la Première Ligue a été à la hauteur de sa réputation. réputation de championnat le plus spectaculaire sans doute au monde.
On a notamment eu, alors puisqu'on parle de matchs spectaculaires, tiens, je pense à un certain Chelsea, on en reparlera tout à l'heure, la défaite de Chelsea face à Burnley, là aussi c'était, ça devait être sympa d'être à Stamford Bridge. Le 3-3 entre Watford et Liverpool, moins spectaculaire mais quand même sympathique, la victoire 2-0 de Manchester City à Brighton, celle de Tottenham 2-0 à Newcastle, et dans tout ça, donc des franchises qui ont brillé, Jérôme, que ça soit à Arsenal ou à Manchester United.
Lacazette, Giroud, Martial et Pogba ont tous marqué. J'en connais un qui doit se frotter les mains, coach, c'est un certain Didier Deschamps. Avant France-Pays-Bas, ça doit le rassurer, c'est le 31 août, ça va arriver vite comme match.
Oui, c'est vrai.
Et donc le fait que Martial et Lacazette, qui ne sont pas des joueurs qui viennent tout le temps dans la liste, Marc, ça peut influer sur son raisonnement. On va écouter d'ailleurs Alexandre Lacazette, qui a donc marqué après 1 minute 34 de jeu en Première Ligue, son premier match sur son premier tir et son deuxième ballon touché.
Ouais, c'est vrai que débuter par le premier match et marquer un but sur le premier ballon, c'est bien. Ouais, c'était trop subit, je pense. Après, c'était l'action, c'était comme ça. Et c'était peut-être trop tôt pour célébrer parce que on savait pas ce qui pouvait se passer dans le match. Je m'adapte, je découvre le niveau anglais. L'arbitre, il laisse beaucoup jouer. Ça, c'est, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est le foot qui est comme ça, faut s'habituer et c'est plaisant. Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence avec le championnat français, mais je le savais et c'est à moi de travailler pour résister.
Moi, t'es dit au moment du transfert de Lacazette à Arsenal qu'il n'y avait peut-être pas une meilleure destination possible pour ce genre d'attaquant. Qu'est-ce que t'en penses, coach?
C'est sûr que bon, pour te familiariser tout de suite dans un club, tu vas à Arsenal avec Arsène Wenger, déjà qui est français. Tu sais très bien qu'il y a eu beaucoup de Français dans ce club-là. Donc, tu n'as pas l'impression vraiment de changer totalement de pays. Tu vas à un endroit qui peut te faciliter ton intégration. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a des petits signes des fois qui trompent pas. Je vois comment Arsenal sauve sa saison dernière en battant Chelsea en finale de la coupe. Là, rebelote au tir au but. Le premier match de Lacazette en match amical, il marque. Donc là, en championnat, il marque. Un scénario assez extraordinaire, que si tu veux l'écrire, ce scénario, pour souder un vestiaire et prendre confiance, et pour l'ambiance de ce vestiaire, il y a pas mieux. Donc je vois Arsenal faire une grosse saison, même s'il y a eu qu'un match de...
Ah, c'est vrai que tu les mets dans tes favoris, toi.
Ouais, je les mets avec Manchester City, favori numéro 1 pour moi, Manchester City, numéro 2 Arsenal.
À condition de retrouver des défenseurs centraux, parce que c'était pas ça avec Kolasinac, Montréal et Holding, c'était un peu léger et Leicester en a profité. Mais il manquait les trois titulaires, a priori, si le système est conservé par Arsène Wenger. Ce nouveau 3-4-3 hein, qu'il a mis en place depuis le mois d'avril, logiquement, ça devrait être Mertesacker, entouré par Koscielny et Mustafi.
Je pense que Arsène s'est mis à la mode. C'est qu'avec les effectifs d'aujourd'hui, c'est indispensable que tous les effectifs de haut niveau connaissent deux organisations minimum, pour ne pas dire une troisième. Donc il y aura l'organisation avec les trois arrières centraux et une autre classique avec les quatre défenseurs et seulement deux arrières centraux.
Un autre Frenchie qui a brillé, Jérôme, avec Arsenal, c'est Olivier Giroud, qui est toujours là.
Le super sub a encore frappé, c'est assez incroyable. C'est la 14e fois qu'il marque en entrant en jeu pour Arsenal en championnat. C'est le record pour le club de Londres. C'est son 26e but de la tête en Première Ligue, son 50e but à l'Emirates, son 70e but en Première Ligue, son 99e but à Arsenal. Et lui, il n'a qu'une envie, Olivier Giroud, comme en fin de rencontre face à Leicester, c'est de jouer avec Alexandre Lacazette et non pas l'un ou l'autre, mais plutôt l'un et l'autre. Écoutez-le.
On a vraiment une bonne entente sur et en dehors du terrain. On a tout fait, j'ai tout fait pour bien l'intégrer et on s'est bien trouvé le peu de temps qu'on a joué ensemble sur le terrain. Donc j'ai failli être passeur décisif pour lui et voilà, il a été aussi très intéressant sur le côté. Donc bon, on sait qu'on peut être amené à jouer tous les deux. Maintenant, commencer les matchs, c'est une autre question, mais il va marquer des buts.
Voilà, au moins ça...
Ils peuvent jouer ensemble, Roland ?
Si tu veux, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que je les vois, on ne peut plus complémentaires. Ouais. Alors évidemment, après, quand tu mets en place un quatuor offensif, il faudra que celui qui joue côté droit, celui qui joue côté gauche se replace. Mais voir un Lacazette vraiment à la pointe, permuté avec Giroud, qui peut lui dévier les bons ballons. Donc c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être aussi l'un et l'autre.
faudra voir comment ça se passera quand Alexis Sanchez sera de retour de blessure, effectivement, parce qu'il y a également Mesut Özil, ça fait du monde devant. Hein.
Je sais plus celui qui a dit ça tout à l'heure, problème de riche.
Bah, problème de riche, oui, absolument. Tiens, mais une autre équipe qui a un problème de riche là, avec ses attaquants, c'est l'Armada. C'est l'Armada, incroyable, Manchester United, victoire 4-0 hier. On parle du doublé de Lukaku, mais on peut aussi parler des buts et surtout de Martial et de Pogba. Hein.
Oui, Anthony Martial qui est donc entré en jeu à la 80e minute. Bilan, une entrée en jeu tonitruante. Un but, une passe décisive. C'est assez incroyable. Alors on sait que Martial a vécu une saison dernière compliquée sous Mourinho, avec un statut d'abord de titulaire puis de remplaçant. Il lui préfère régulièrement Lingard et maintenant Rashford. Martial a montré hier qu'il avait des qualités. Avec Jean-Michel Badian, quand on a commenté le match, on était un petit peu déçu qu'il ait pas esquissé le moindre sourire après son but. Peut-être qu'il manque un petit peu de fierté, de s'extérioriser peut-être pour montrer sa joie.
C'est-à-dire c'est un gars qui s'est un petit peu refermé sur lui-même après une première saison assez extraordinaire, voire époustouflante, autant dans le nombre de matchs que dans les stats. La deuxième saison, tout logiquement ça peut être le contre-coup, n'a pas été bonne, sa participation à l'Euro non plus. Donc là on a un Martial qui a perdu, je dirais, pas seulement sa joie de jouer, mais sa joie de vivre aussi. Mais si il retrouve la joie de jouer, il va retrouver la joie de vivre, ou vice versa. Donc
en tout cas, il a retrouvé des jambes. Hein. Il a retrouvé des jambes et des dribbles.
Je pense qu'à la suite d'un but, compte tenu de tout ce qu'il a encaissé et peut-être eu du mal à digérer, ne lui en demandons pas trop en ce qui concerne sa démonstration. Mais intérieurement, c'est sûr qu'il devait être, on ne peut plus, content.
Alors, il a marqué.
Il a donné une passe décisive.
Une passe décisive à qui? À Paul Pogba.
Évidemment.
C'était le quatrième but de Manchester United à la fin de la rencontre. Un petit ballon et Pogba qui a conclu le très beau travail de United.
Paul Pogba, même s'il est encore jeune, pour avoir beaucoup de tournants dans sa carrière, là, la saison qui arrive, pour moi, c'est un tournant très important, où il est indispensable pour lui, et évidemment, ça sera très bien pour son club, d'avoir une certaine régularité dans les performances, certaines stats aussi, qui puissent s'imposer parallèlement à ça en équipe de France comme l'un des trois leaders de cette équipe de France. Pour le moment, c'est en bonne voie, ça, mais on l'attend toujours. Ce futur Ballon d'Or, nous l'attendons. Pour le moment, ça reste un futur.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de ses stats. La saison dernière, toute compétition confondue avec Manchester United, c'est 11 buts et 8 passes décisives. C'est un début. C'est pas mal quand même.
Oui, c'est pas mal, mais on est obligé d'en attendre plus. Ces stats-là, c'est en combien de matchs?
Ça doit être sur une grosse cinquantaine, 54, je crois.
Oui, c'est... On peut.
Deuxième joueur le plus utilisé.
Il doit pouvoir faire mieux, j'en suis persuadé.
Allez, on conclut cette page Première Ligue avec Chelsea. Chelsea donc est un scénario un petit peu compliqué pour les Blues et le champion dans le doute, clairement, Jérôme.
Ouais, c'était samedi après-midi face à Burnley. On ne s'attendait vraiment pas à ça, même si Chelsea reste sur deux défaites face à Arsenal, on l'a dit, en Cup et au Community Shield. Un carton rouge pour Gary Cahill, 3 buts encaissés, 3-0 à la mi-temps, incroyable. Et puis ensuite, la réaction d'orgueil malgré l'expulsion de Fabregas. Chelsea est revenu à 3-1 d'abord avec Morata, à 3-2 ensuite avec David Luiz sur une passe décisive d'Alvaro Morata, dont l'entrée en jeu est peut-être le point positif de l'après-midi des Blues. Mais c'est vrai que les champions en titre inquiètent, et il y a cette histoire avec Diego Costa qui va quand même falloir éclaircir, parce que le Brésilien a déclaré dans le Daily Mail aujourd'hui, dans la presse anglaise, qu'il était traité comme un criminel. Faut savoir que Conte lui a envoyé un SMS avant la reprise pour lui dire: je ne compte pas sur toi, trouve-toi un autre club. Lui veut partir à Atlético de Madrid, son club ne veut pas le libérer de son contrat qui dure jusqu'en 2019, donc pour l'instant statu quo. Mais c'est compliqué et on a l'impression que l'intersaison a été très mal gérée du côté du champion.
Mais je ne serais pas surpris si Chelsea fait une année très compliquée, justement.
Allez, merci beaucoup Jérôme Sillon. La Première Ligue qu'on suit évidemment sur RMC et sur SFR Sport.
Gros week-end le week-end prochain. Chelsea, Tottenham, Manchester City, Everton.
Voilà.
Tottenham, Chelsea,
ça commence bien. Merci beaucoup, coach. On se retrouve demain.
À demain.
Et tout de suite, le récap des courses du jour. C'est avec vous, Frédéric Zermati. C'est à l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville.
Effectivement, bonsoir à tous. Avec le quintet aujourd'hui, la victoire du 4 Hauteville. Une victoire que j'ai envie de dire logique, puisque l'autre jour elle a terminé de très plaisante manière à la deuxième place dans un lot où il y avait les mâles, et aujourd'hui elle affrontait les seules femelles et elle s'impose assez sûrement devant le 7 Justy Win, le 16 Shana West, le 11 Daligala et le 6 Arcadia. 4, 7, 16, 11 et 6 rapportent dans l'ordre un peu plus de 33 000 euros. Demain, on va de nouveau galoper, cette fois du côté de Deauville. C'est le prix du Hong Kong Jockey Club, avec une épreuve très difficile à déchiffrer. Il n'y a pas moins de 5 concurrents qui débutent dans les handicaps. J'ai envie de vous proposer, moi, le 6 Front Contender, une pouliche qui n'a pas beaucoup de métier, mais qui a certainement beaucoup de talent et que je pense capable de bien faire d'entrée de jeu, tout comme l'As Ya Baladi. Je vous le dis, l'épreuve est très ouverte, donc n'hésitez pas à élargir vos jeux. Et si vous, il vous faut des infos complémentaires, comme d'habitude, direction le site rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, à la place pardon, à l'intégral sport maintenant sur RMC. Salut Pierre Dorian.
Bonjour à tous, ça va?
Ça va et toi, retour de vacances?
C'est des vacances studieuses.
Ouais, tu as vu, je suis un tout petit peu moins bronzé que toi, t'en as remarqué?
Mais pas tant que ça.
Ouais, attends, t'es allé où en vacances toi?
Ah, je suis pas en France, on en est France. Resté en France, ah, à Annecy, dans la Drôme, voilà.
Et là, tu accueilles ce soir des gens qui sont partis en Angleterre, oui. si j'ai bien compris.
Faire le boulot pour l'équipe de France d'athlétisme, Kevin Mayer, Mélina, Robert Michon et Johan Diniz seront nos invités dans ces 3 heures d'intégral sport. On va parler du Usain Bolt, de Roger Federer, les débuts de Neymar, l'actu mercato avec Kylian Mbappé, bien entendu tout ça avec Olivier Giraud et vous au 32-16. C'est parti pour 3 heures d'intégral sport sur RMC.